Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le débat de midi à la carte. Aujourd'hui, de la discussion servie sous cloche comme dans un grand restaurant et c'est aussi l'apanage des grands débats. Aujourd'hui, le plat principal est à la fois aigre et doux, amer et sucré, bon et mauvais, puisque nous allons parler d'Elon Musk. Elon Musk, l'un des noms les plus prononcés depuis le début de l'année. Et encore, il y a quelques jours, lorsque sur mon téléphone, un X a remplacé l'oiseau de Twitter comme symbole du réseau social et ce mal fou pour convaincre mon entourage que non. Je n'étais pas inscrit à un site pornographique. Je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ce genre d'expérience. Elon Musk, génie en lançant PayPal, en finançant des fusées, en rêvant de conquérir Mars, ou bien avec Tesla, mauvais génie en réintégrant des comptes climato-sceptiques sur Twitter, en flirtant souvent avec le malaise social, en parlant des employés de son réseau social, le tout avec une légèreté d'adolescent. Alors l'homme qui se bat avec Bernard Arnault pour savoir qui sera l'homme le plus riche du monde, va-t-il encore nous surprendre, ou est-il un iconoclaste avec un trop gros compte en banque? A-t-il des ambitions politiques? Vous pouvez le commenter, donner votre avis sur l'appli France Inter via vos notes vocales et messages. Allez, on glisse ce midi vers la Silicon Valley, voir ce qu'il se passe du côté d'Elon Musk. C'est le débat de midi. On est ensemble jusqu'à 13h.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Et pour en parler autour de la table du débat de midi, nous recevons Marie Turcan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du site Numérama. Hein. Également Olivier Lascar. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique, sciences et avenir, auteur d'une biographie sur Elon Musk parue en 2022 intitulée Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Julien Pillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'INSEC, une grande école, bien sûr, spécialiste de l'économie numérique, des questions d'innovation et de concurrence. Et puis Anthony Galluzzo, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur du mythe de l'entrepreneur, c'est publié à La Découverte dans la collection Zone. Alors forcément, on a intitulé ce débat Elon Musk, bon ou mauvais génie. C'est vrai que Marie Turcan, c'est un petit peu toujours, quand on regarde ce que fait Elon Musk, toujours la question qu'on se pose, on ne sait pas si c'est un homme qui est dangereux ou alors s'il est bien pour l'humanité.
Bah, en fait, ça dépend un peu de quelle place vous parlez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent depuis un moment qu'Elon Musk est quand même assez néfaste, que ce soit des personnes des minorités de genre, parce qu'il est, il est très vocal contre les personnes trans, les personnes racisées, les personnes... En fait, il y a un groupe de fans hein, depuis le début de la carrière d'Elon Musk, notamment via Tesla, parce que via Tesla, il a quand même porté une vision du monde qui est assez magnifique, qui a essayé de réduire l'empreinte carbone sur Terre. Avec SpaceX, et ben, il s'est imposé comme une solution vraiment impressionnante, palliative même des manquements de la NASA qui n'arrivent pas à soutenir cette conquête spatiale. Donc de ce côté-là, en tant qu'entrepreneur génial, et ben, forcément, il a forcé un peu l'admiration, notamment auprès d'une certaine catégorie de population, hein, des hommes qui sont cultivés, qui sont fans de technologie, qui voit en lui quelque chose qui tient de la fascination pour le progrès. Et puis de l'autre côté, hein, depuis le début, on sent quand même que dans les mots qu'il utilise, son comportement, qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas tout à fait rond quoi, avec lui, et qui a un potentiel relativement néfaste, notamment avec cette communauté, fort de cette communauté. Maintenant, il a 150 millions d'abonnés sur Twitter, mais on dit sur X maintenant.
Voilà.
Il a une espèce de puissance, et également une puissance économique, et je pense qu'on va en parler
aussi,
mais l'homme le plus riche du monde, en tout cas, ou le deuxième homme le plus riche du monde, est capable aujourd'hui de tout. Et c'est vrai que c'est en soi, du coup, un produit un peu du néolibéralisme aujourd'hui qui s'est un peu répandu sur la planète. Et il faut aussi peut-être qu'on se pose des questions sur comment on a fait naître cette personne.
C'est ça. Alors, Olivier Lascar, je le disais, vous avez écrit donc une biographie sur Elon Musk. Je ne vais pas vous demander de trancher s'il est bon ou mauvais, Elon Musk. Mais quand on dit au départ génie, c'est-à-dire au début d'Elon Musk, est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué aujourd'hui son empreinte bien l'innovation technologique?
Je pense que oui. Je pense que Musk a imposé des solutions techno qui, sans lui, ne seraient pas arrivées à ce niveau de maturation et ne seraient pas opérationnelles, tout simplement. Le coût de la fusée réutilisable, qui est la fusée de Tintin.
SpaceX,
elle décolle, elle va faire dans l'espace ce qu'elle a à faire, typiquement larguer des satellites ou des réservoirs de ravitaillement pour la Station Spatiale Internationale. Une fois que c'est fait, elle revient au sol, elle se repose droite comme un I, on lui fait une révision et elle peut repartir le coup d'après. En termes d'économie, de coût de l'opération, c'est vertigineux par rapport à la fusée allumette. Une fois qu'on l'a fait cramer, elle est foutue et il faut repartir de zéro. Donc il a imposé ces solutions-là. comme l'a dit Marie, au niveau de la voiture, il a imposé la solution de la voiture électrique. Je pense que sans Musk, la voiture électrique n'aurait pas conquérir, on ne serait pas en train de conquérir le monde comme elle le fait aujourd'hui. Donc il y a un monde, le monde d'Elon Musk est le monde qu'il nous impose dans lequel il nous impose de vivre aujourd'hui. Donc oui, il est ça n'est pas que de l'esbrouf, c'est c'est la vraie question qui se pose, notamment pour les journalistes.
Bien sûr.
Quand on est moi je travaille à Science et Avenir, je travaille sur le numérique. Tous les jours, on fait des papiers qui relatent l'activité, l'actualité des sciences. Il y a un moment donné où je titubais face à l'actualité d'Elon Musk. Parce que il y avait à boire et à manger, et très souvent, c'était du blabla et du n'importe quoi. Quand il commercialise des lance-flammes, on se dit, mais bon, il se croit, c'est bien, il le rejoue Alien, mais à quoi ça sert? Et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est une technique de communication pour occuper l'espace, pour être plus fort que Netflix, pour transformer son activité industrielle en une fiction permanente qui fait qu'il adhère notamment à un public qui devient fan, comme ça a été dit, et qui va suivre son actualité, le suivre sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça permet aussi d'en faire une bête médiatique dont on parle tout le temps. Et quand il a besoin de faire des tours de table pour lever des sous pour telle ou telle activité, eh bien, ceux qui abondent se disent « bah oui, c'est le bon cheval ».
C'est ça. Julien Pillaud, c'est vrai qu'au départ, c'est assez étonnant. Il m'est arrivé, je me raconte une petite anecdote personnelle, je regardais la télévision et je suis tombé sur... il était invité de l'émission de Jimmy Fallon. Et je le vois en fait parler normalement, Elon Musk. Et c'est vrai qu'on n'a presque pas l'habitude de l'entendre parler normalement, tellement les déclarations dont vous parlez, en effet, je vends des lance-flammes, ou alors je vais me battre contre un sumo, je dis n'importe quoi, je dis que les extraterrestres ont construit des pyramides. Ça fait partie en effet de sa technique. Il est comme ça, il le joue d'après vous, ou en effet, on ne sait plus comment le situer, en fait, Elon Musk. Est-ce qu'il est complètement excentrique, ou alors c'est un génie qui sait justement se montrer excentrique?
Alors, je vais certainement pas trancher la question. En tout cas, il est clair que dans le monde de l'entrepreneuriat tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est à la fois un peu un électron libre, mais aussi c'est un peu un ovni qui est très difficile de caractériser, de classer, tant il peut être changeant par certains aspects. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il cultive finalement son syndrome Tom Cruise.
C'est-à-dire ?
Lorsque vous faisiez des enquêtes d'opinion il y a une dizaine d'années à Hollywood, vous posiez la question à un public cible en disant quel est votre acteur préféré à Hollywood ? Majoritairement, c'était Tom Cruise qui ressortait. Vous posiez la même question à un même public et ce qui ressortait parmi les acteurs les plus détestés, c'était aussi Tom Cruise. Donc finalement, vous êtes dans la sphère entrepreneuriale face à ce que Tom Cruise ou Michael Jackson ou Prince ont été sur leur sphère respective, c'est-à-dire une mégastar qui va être de toute façon complètement clivante et qui va jouer de ce clivage-là pour pouvoir faire parler de lui ou de ses affaires. Et donc, le dernier épisode en date, avec la vraie passe d'armes entre lui et Mark Zuckerberg autour d'un combat de MMA qui est en train de s'organiser et qui sera retransmis sur X. Absolument, le 26 août, retransmis sur X. Hein. Et probablement monétisé sur X aussi.
Improbable.
Je pense qu'on en parlera. Clairement improbable, sauf si vous voulez faire du buzz. Et aujourd'hui, effectivement, mettre en exergue, monter en épingle, une vraie fausse rivalité entre géants de la tech et deux entrepreneurs qui comptent parmi les plus suivis sur Internet, ça permet de faire parler des affaires. Et finalement, il n'y a pas de mauvais buzz dans le monde des affaires comme dans le monde de l'entertainment. Il faut qu'on parle du produit. Et ça, Musk, il sait très très bien le faire.
Donc il maîtrise aussi l'art de la communication, hein, véritablement.
Très clairement.
On le sait aussi. Anthony Galuzzo, est-ce qu'on peut dire qu'Elon Musk s'inscrit finalement dans ce mythe, je reprends le titre de votre livre, le mythe de l'entrepreneur américain, ou même si lui n'est pas de naissance, mais dans le mythe de l'entrepreneur américain où il est différent des Ford et des autres?
Oui, effectivement, il s'inscrit dans une tradition, c'est-à-dire que c'est une célébrité entrepreneuriale. Les célébrités entrepreneuriales, elles naissent fin 19e siècle avec les médias de masse, c'est-à-dire c'est ce moment où, à partir de Carnegie, Edison et jusqu'à nos jours, jusqu'à Musk, en passant par Jobs ou Gates, on va commencer à raconter l'économie sous une forme personnifiée, avec une espèce de double réduction. Réduction des industries, de secteurs entiers, de l'industrie, des écosystèmes complexes. Ces écosystèmes complexes, on va les réduire à une entreprise et une seule, comme par exemple Apple, il y a une vingtaine d'années, pour la tech, ou aujourd'hui Musk, pour Tesla, par exemple, pour tout ce qui est voiture dans l'industrie automobile, etc. Et donc, réduction de l'industrie à une entreprise et réduction d'une seule entreprise à un individu. Comme si, en quelque sorte, une entreprise, quelque chose d'assez complexe, très complexe comme une entreprise, c'est-à-dire quelque chose qui, une entité qui se meut sous les forces conjuguées de tout un ensemble d'individus, d'ingénieurs, de cadres, de chargés d'affaires, de décisionnaires, un board avec des financiers, des comptables, etc. Comme si, en fait, on allait simplifier la chose et que l'entreprise, c'était simplement une espèce de bolide au volant duquel on retrouvait l'entrepreneur, cette espèce de génie surhumain capable de guider l'humanité sur la route du progrès. Ouais. Et voilà, et ça c'est une narration qu'on retrouve depuis une centaine d'années au moins, et qui est très très constante en fait, hein, au-delà du cas de l'épiphénomène Elon Musk.
Marie Turcan, là, ce profil-là, on le retrouve souvent autour, parce que là, d'un coup, ça m'est venu en parlant, on imagine, on voit Bill Gates aussi, un peu Jeff Bezos, on est un peu, c'est un profil qu'on retrouve souvent dans la Silicon Valley, là, celui de Musk.
En tant qu'entité, oui, en tant que personnalité, pas du tout. En fait, je trouve qu'Elon Musk, lui, a réussi justement à créer son image et cette espèce de stature en cassant les codes de la communication, en étant un des premiers à publier des mèmes, des histoires drôles, à essayer de jouer un peu le gros beauf. Enfin, parfois, c'est aussi ça qui a finalement plu. C'est de la démagogie à la Trump. Et en fait, je pense que c'est pas la seule fois où on le comparera. Parce que, franchement, là, moi, je suis donc rédactrice en chef de Numérama. Ouais. Et avant, je travaillais pour un site qui s'appelait Business Insider. Et au moment de l'élection de Donald Trump, en 2016, on s'était à ce moment-là posé la question de comment traiter cet individu. C'est que, comme vous l'avez dit, il y a des phrases que tous les jours. Et donc, ça remplit l'espace médiatique. Et en tant que journaliste, on a un peu ce devoir de se poser la question de qu'est-ce qui mérite un article et qu'est-ce qui n'en mérite pas, parce que sinon on crée du bruit et ce bruit-là, il va servir que à Trump, il va servir que à Musk. Et donc aujourd'hui, je trouve que la trajectoire de Musk, elle est moins comparable à celle de Bill Gates ou de Steve Jobs, qui ont su rester dans leur posture, qu'à celle de Donald Trump, qui lui a réussi à venir et à dire en fait, il n'y a plus de vérité, ce que je dis va devenir une vérité, et en plus vous allez la répéter parce que ça marche.
Ouais, c'est ça, Olivier Lascar, avant qu'on continue véritablement sur Musk, on parle souvent de la Silicon Valley, de ces personnes-là comme Bill Gates ou Jeff Bezos, comme des gens qui se sont abreuvés de science-fiction quand ils étaient jeunes, et aujourd'hui bien mettent en place finalement ce qu'ils ont lu et ils veulent le réaliser. Est-ce qu'Elon Musk, on est dans ce personnage-là aussi? Est-ce que, par exemple, sa conquête de Mars dont il parle tout le temps, est-ce qu'on est à la base un jeune garçon qui lisait que de la science-fiction et qui veut la réaliser maintenant?
Alors oui, c'est exactement ça, et c'est quand même une singularité concernant Musk. Il y a quand même deux caractéristiques, moi, qui me semblent le distinguer des autres géants de la Silicon Valley. C'est d'abord une forme d'honnêteté. Alors, c'est bizarre d'utiliser cet adjectif concernant Musk, mais l'honnêteté de Musk, c'est que il croit vraiment à un projet qui est le projet martien, qui consiste à créer les conditions pour que l'humanité puisse aller sur une autre planète, et qui est celle qui est Mars, parce que c'est la seule possible en l'état actuel des choses. Ouais. Et il se donne tous les moyens pour y arriver. Parce que dans le catalogue un petit peu cafarnaumesque, si je puis dire, de ces entreprises, il y a quand même Mars qui est au centre de tout. SpaceX, c'est pour aller sur Mars. D'accord. Starlink, les satellites qui sont autour de la Terre, en l'occurrence, pour fournir un Internet tombé du ciel. Demain, ça pourrait être autour de Mars. Des voitures qui roulent toutes seules, ça pourrait permettre de joindre deux points séparés sur la planète Mars. La foreuse de The Boring Company qui va creuser des trous sous les villes embouteillées pour créer des tunnels. Elle a pile poil la taille pour entrer dans Starship, la fusée qui ira sur Mars, et ça permettrait de faire des caves, puisqu'on ne pourra pas vivre à la surface de Mars en raison des rayonnements. Donc, si vous voulez,
c'est vraiment réfléchi en fonction de la planète rouge, en fait.
Oui, et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu déstabilisant quand on met le doigt dessus, parce que justement, lui, il joue le contraire. Il donne à paraître une sorte d'éclatement total où il va, il y a à boire et à manger en permanence. Non, je pense qu'au contraire, il y a une unicité du projet qui est le projet martien, et il fait tout pour y arriver. C'est pour ça que je parle d'honnêteté. Quant à la science-fiction, effectivement, c'est un enfant qui était introverti, qui s'est construit un univers intérieur grâce à ses lectures de jeunesse qui allaient dans la SF tous azimuts. Il y avait la SF mainstream, il y avait Star Wars, c'est pour ça que le Falcon s'appelle le Falcon, comme celui d'Han Solo, Millennium Falcon. Mais il va aussi dans une science-fiction littéraire comme celle de Ian Banks, qui est plus davantage de niche. Et les plateformes sur lesquelles il fait atterrir aujourd'hui ses fusées, elles portent le nom de vaisseaux qui viennent du cycle de la culture de Ian Dox. C'est vraiment très poussé, cette référence à la science-fiction. Et effectivement, il y a une sorte de cahier des charges dans ses lectures qu'il essaie d'appliquer.
Ouais, et c'est ça qui est étonnant, Anthony Galuzzo. C'est étonnant et en même temps effrayant de la part d'Elon Musk, voire d'autres. C'est que bien leurs rêves, ils les mettent vraiment en action.
Je ne crois pas, non. Comme je l'expliquais, en fait, je pense que l'acteur central, c'est un acteur qui n'est pas incarné, qui est l'écosystème. C'est-à-dire que, je pense que le fait qu'on croit que des individus à eux seuls soient capables de mettre en branle des industries tout entières et inventer vraiment, comme si on les retirait, en fait, l'histoire de l'humanité s'en trouverait bouleversée. Le fait même qu'on croit à cette idée, illustre bien le pouvoir du mythe de l'entrepreneur sur nos conceptions de l'économie. Encore une fois, l'économie, ça se comprend à un niveau macroscopique. Il n'y a aucun individu qui est indispensable à la marche du monde. Et le fait même qu'on arrive à croire que Elon Musk, au-delà de la célébrité entrepreneuriale, c'est un entrepreneur qui est capable de diriger simultanément 5 entreprises dans des industries complètement différentes. Le fait même qu'on croit à cela, en fait, installe le mythe de l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que le mythe de l'entrepreneur à niveau politique ? C'est, en fait, ça vient donner du crédit à la narration néolibérale. L'idée qu'en fait, le progrès humain, en fait, repose sur les épaules de quelques individus supérieurs, géniaux. Et en tant qu'individus supérieurs et géniaux, ils nous dépassent tous. Et ils ont droit ils ont un droit sur nos destinées. Ils ont un droit politique de décider où on va investir, comment investir. Ils ont droit à s'émanciper de tout un ensemble de règles communes, comme de s'émanciper à l'impôt, puisque si ce sont eux l'avant-garde qui, en fait, constitue la marche de l'histoire, si ce sont eux, ce sont des sommités qui ne doivent rien à personne et qui portent, en fait, le monde sur leurs épaules, alors il est injuste de les imposer puisque ça serait les voler et, en fait, dérober la valeur dont ils sont eux-mêmes les uniques porteurs.
Julien Pillaud, c'est ça, en fait, en voulant taxer et même imposer Elon Musk, on veut imposer un titan, en fait, c'est ça.
Disons qu'il y a beaucoup d'intérêt, et c'est en cela que je rejoins complètement les propos qui ont été tenus par Anthony à l'instant par téléphone. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui dans le monde, personnalités physiques et morales, qui ont intérêt à ce que Elon Musk réussisse, qui sont extrêmement concernés par la survie financière et économique d'Elon Musk, tout simplement parce que effectivement Elon Musk est un pion dans un échiquier qui est beaucoup plus vaste, dans un écosystème aujourd'hui qui tient parce qu'il y a des personnes qui investissent dans les différentes affaires dans lesquelles il se lance, les différentes aventures entrepreneuriales dans lesquelles il se lance. Et ce faisant, Elon Musk devient un catalyseur. C'est un catalyseur parce que, on en a parlé tout à l'heure, il sait occuper l'espace médiatique, il sait faire parler de ses entreprises, il sait fasciner suffisamment de personnes et suffisamment de fans finalement pour que on s'intéresse à ses entreprises et qu'on lui donne suffisamment de crédit pour qu'il ait le temps de mener certaines de ses aventures entrepreneuriales à bien et surtout dégager aussi des profits pour les personnes qui lui font confiance. Mais évidemment, il y a derrière Elon Musk une mythe, une personnification de l'entrepreneur, je suis complètement d'accord avec Anthony, et en même temps, on est face à quelqu'un qui a un projet beaucoup plus global, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan technologique. La colonisation de Mars, ça ne vient pas comme ça, ça ne vient pas que de ses lectures, c'est aussi la conviction qu'il a que si l'homme continue sur la trajectoire qui est la sienne aujourd'hui, l'anthropocène sera à un moment donné tellement important qu'on finira par se bouffer les uns les autres, et que la seule solution finalement, c'est de s'extraire effectivement de notre planète Terre pour aller sur Mars, pour diminuer la pression sur les écosystèmes. Et puis à côté de ça, on a quelqu'un qui est capable aussi de créer des complémentarités, comme l'a dit Olivier, entre ces différentes entreprises, en leur trouvant des débouchés de court terme qui paraissent à peu près réalistes et tangibles pour la population de masse, mais qui, sur le long terme, donne une autre direction. Olivier en a très bien parlé.
On va continuer à en parler dans un instant, justement. Elon Musk, et notamment, a-t-il un poids politique ? Et on va le voir en abordant Twitter, enfin X, hein, puisqu'il faut dire ça comme ça. Ce sera juste après Suzanne Belaubre et Gatien avec une longue journée de travail.
France Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Dans le débat de midi, nous parlons d'un homme qui pèse 220 milliards de dollars. Alors, est-ce que c'est Bernard Arnault ? Eh ben non, c'est l'autre. C'est Elon Musk, hein. On en parle, bon ou mauvais génie, on voit ça avec Marie Turcan, qui est rédactrice en chef de Numérama, Olivier Lascar, rédacteur en chef, lui, du Pôle numérique, Science et Avenir, auteur d'une biographie sur Elon Musk, également Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC, et Anthony Galuzzo, qui est auteur du mythe de l'entrepreneur. Alors, Marie Turcan, on a vu voilà à quel point comment Elon Musk lui imaginait le monde, ce qu'il voulait faire en effet, et surtout partir sur Mars. Mais il y a quelque chose dont on a énormément parlé cette année et qui est très concret pour nous tous, même
un tout petit réseau social,
un réseau social en effet qui s'appelle Twitter. On a souvent dit que Elon Musk aussi pouvait, vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure, avoir un projet politique. Est-ce que Twitter, voire X maintenant, ça fait partie du projet politique d'Elon Musk?
Bah alors lui, alors il y a deux versions. Hein. Il y aura ma version et la version d'Elon Musk. La version d'Elon Musk, c'est qu'il veut faire une grande application qui ne s'arrêtera plus à juste de la discussion, mais qui s'approchera d'une application qui s'appelle WeChat en Chine et qui regroupe énormément de services, qui n'est pas juste de la discussion, hein, mais où on peut mettre des photos, on peut mettre, il y a de l'actualité, il y aura même des possibilités de réservation. Tout se passera sur cette application. Donc lui, il a encore une fois c'est une espèce de rêve monopolistique d'avoir une application pour les gouverner toutes. Et lui dira qu'il n'y a pas de projet politique derrière. Parce que il vient d'un courant dans la tech qui veut que la tech serait neutre depuis des décennies. Et ça fait, bon, cette petite dernière décennie qu'on arrive à déconstruire ça et à montrer que la tech est aussi le reflet de ceux qui la font. Et qui la font, ce sont majoritairement des hommes blancs qui ont beaucoup, soit d'argent, soit un peu les mêmes projets, ou qui ont grandi un peu dans la même culture. Et donc, lui va toujours dire qu'il va essayer de créer une application neutre, quelque chose où tout le monde aurait le droit à la parole. Mais évidemment, là, depuis quelques mois, on voit que c'est absolument pas le cas, que les gens qui sont pas d'accord avec lui se font censurer leur compte, qu'il est capable de... l'entreprise X vient d'annoncer que toutes les personnes qui auraient été renvoyées de leur travail pour avoir publié un tweet ou un X, une publication, tous leurs frais d'avocat seraient payés par Twitter, par X.
C'est évidemment ça qui est étonnant, c'est parce qu'on se pose la question quand je vous parlais de politique, quand il réintègre en effet les comptes supprimés auparavant.
Oui, donc Donald Trump, par exemple.
Donald Trump ou d'autres climato-sceptiques. Et on a vu une poussée, d'ailleurs, du climato-scepticisme sur ce réseau social depuis la réintégration de ses comptes. Lui, il explique ça par sa neutralité dont vous parliez tout à l'heure, ou alors par un projet politique qui lui conviendrait.
Lui le voit comme une liberté d'expression, comme une ode à la liberté d'expression, quelque chose où il n'y aurait plus de contradictions, où il y aurait justement plus de contradictions, mais au final, il va vers une plateforme qui reflète ses propres idées. Elon Musk est climato-sceptique depuis un moment. Elon Musk ne croyait pas au Covid. Elon Musk pensait qu'un sauveteur en Thaïlande était un pédophile juste parce que il avait critiqué le petit sous-marin qu'Elon Musk avait créé pour essayer d'aller sauver des enfants en 2018. C'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que ça fait quand même 5-6 ans que le discours d'Elon Musk et la manière dont il formule ses idées laisse paraître quelqu'un qui a finalement des idées très extrêmes, des idées très complotistes, et qui ne fait pas forcément la part des choses. Et si on peut extrapoler un peu, en fait, il incarne un petit peu toutes les dérives qu'on a mis sur Twitter depuis des années. Le fait que Elon Musk est un pur produit de Twitter, un réseau social dans lequel on peut se faire engrainer, dans lequel on peut avoir l'impression que ses idées sont majoritaires parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous disent « Ouais, t'es génial ». Au final, peut-être qu'Elon Musk a juste un peu trop cru que Twitter était la vraie vie.
Voilà, mais ça lui a coûté cher quand même.
44
milliards tout de même. Julien Pillot, sur cette idée en effet de ce mélange d'Elon Musk avec, quand il l'évoque de temps en temps, la politique, mais en effet, en prenant ce réseau social Twitter, il le voulait quand même, ce réseau social, parce qu'il y avait pour lui une manière de dire « j'ai le droit à la parole, j'ai le droit aussi de m'exprimer ».
Alors, il le voulait pour des raisons qui, à mon sens, sont davantage entrepreneuriales que politiques. Mais qu'il puisse se servir de Twitter pour avoir une influence politique, c'est une chose et c'est quasiment un fait. Ne serait-ce que lorsqu'il prend des décisions aussi radicales que de supprimer quasiment toute forme de modération sur le réseau social, et lorsqu'il s'érige en parangon de la liberté d'expression. Je crois même qu'il a, à un moment donné, employé l'expression absolutiste de la liberté d'expression. Bon, surtout quand la liberté d'expression va dans le sens qui est celui de ses opinions. Bref. Blague à part, ce qui l'intéresse surtout dans Twitter, c'est au-delà de du côté ludique qu'il peut y trouver, c'est la caisse de résonance absolument colossale qu'il va y trouver pour pouvoir à la fois soutenir ses autres activités, notamment Tesla, notamment SpaceX, notamment Neuralink, parce que derrière, aujourd'hui, la plupart de l'intelligentsia, qu'elle soit politique, journalistique ou économique, utilise X, ex-Twitter, pour pouvoir communiquer et s'abreuver d'informations et éventuellement donner des opinions. Mais aussi, ça lui permet d'avoir un projet ou de raviver un projet entrepreneurial qu'il a depuis très très longtemps en tête. Effectivement, il y a cette histoire de méga-application, de méta-application, une application qui permettrait éventuellement d'être un espèce de couteau suisse qui permettrait de faire beaucoup beaucoup de choses. Il se trouve que dans un passé récent, je suis allé donner des conférences en Chine et effectivement, en Chine, on fait pas grand-chose sans WeChat. Je pense que derrière le projet X, il y a ce projet-là, mais augmenté aussi de crypto-finance, puisqu'il s'agit de lancer des crypto-actifs qui sont autant de monnaies virtuelles qui pourront s'échanger par le biais de cette application lorsqu'elle aura d'autres services que les services actuels monétisés.
C'est tentaculaire, en fait.
C'est complètement tentaculaire. D'accord. Et la vraie question qui va se poser, c'est plutôt la question suivante. C'est est-ce que les autorités de concurrence et les autorités de régulation de part et d'autre de l'Atlantique vont le laisser mener à bien ces projets? Parce qu'à un moment donné, effectivement, Elon Musk, tout puissant, qu'il soit, et évidemment tout pivot de son écosystème qu'il soit, ne peut pas tout faire parce que à un moment donné il y a quand même des comptes à rendre, et notamment sur le plan légal.
Olivier Lascar, récemment, c'est pour ça que je parlais de politique, parce qu'il y a eu un sondage auprès des électeurs républicains donc qui mettent en avant Donald Trump, mais il disait si Elon Musk se présentait on voterait pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'il partage vraiment cette tendance ou il représente quelque chose pour ses électeurs républicains?
Il représente sans aucun doute quelque chose pour les républicains, puisque il est sorti d'une ambiguïté politique dans laquelle il s'était développé pendant des années et des années, depuis 20 ans, puisque précédemment on l'avait vu accompagner Obama, on l'avait vu soutenir Hillary Clinton. Il s'est rapproché de Trump quand Trump a voulu devenir le président d'un retour vaille que vaille sur la Lune, puisque ça, c'était le même projet que celui de Musk, puisque lui a besoin de revenir sur la Lune aussi pour, en quelque sorte, entraîner la fusée qui ensuite ira sur Mars. Donc, il s'est rapproché dans un premier temps de façon opportuniste des Républicains. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il devient un acteur politique, mais au niveau de l'influence. Je pense que ces histoires de champion de la liberté d'expression, etc., tout ce propos qu'il a développé, ça a toujours été du blabla. Mmh. Il s'est toujours comporté comme un industriel classique qui, à un moment donné, achète de la presse ou du média pour peser sur le jeu. On peut encore acheter du magazine papier ou numérique. Bezos a acheté le Washington Post. Lui, il achète Twitter. Twitter qui, par sa politique de modération, son absence de politique de modération, devient de fait non pas une simple plateforme mais un média, puisqu'ils ont une politique éditoriale maintenant. Twitter a une politique éditoriale. Donc il devient un éditeur. Ouais. Et ce faisant, il s'est doté d'un outil qui lui permet d'avoir l'oreille des politiques. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, pour ses entreprises, et son intérêt n'est pas de devenir président des États-Unis, je pense qu'il pourrait pas l'être pour des raisons de naissance, etc.
Il est en Afrique du Sud, rappelons-le.
Voilà, il en a pas envie. Ce qu'il veut, c'est que ses entreprises fonctionnent et que SpaceX puisse un jour aller sur Mars. Mais son problème aujourd'hui, il est plus d'ordre légal que scientifique ou technologique plutôt. Technologiquement, tout ne marche pas encore pile poil, mais il s'est entouré des meilleurs. Ça fait partie des mystifications d'Elon Musk. Effectivement, tout à l'heure, dans la première partie d'émission, on a parlé de Musk comme d'un type omniscient sait tout faire. En fait, c'est pas ça du tout, Musk. C'est plutôt quelqu'un qui s'est extrêmement bien entouré au niveau du spatial, au niveau de la voiture électrique. Il a pas créé Tesla.
Mais on a l'impression que c'est lui.
C'est le coucou qui fait son nid dans le nid des autres. Tesla avait été créé par deux ingénieurs avant-gardistes. Il s'est intéressé au projet, il les a éjectés et il a fait quand même de Tesla ce que Tesla est devenu aujourd'hui parce qu'il était entouré. Et si aujourd'hui, quand il sort de sa zone de confort en parlant du Covid, en parlant de quantité d'autres sujets, il n'est pas entouré et il dit n'importe quoi.
Justement, Marie Turcan, pour vous, aujourd'hui, Elon Musk est-il un homme politique? Est-ce que d'après vous, il est politique?
Par rapport à ce que vous disiez
tout à l'heure, en fait, mais est-ce que pour vous, ça,
il y a comme toute personnalité publique, finalement, nous là en ce moment, on tient un discours qui peut avoir des
bien sûr, mais quand je dis politique, ça veut dire clairement pour un camp, en gros. Quand je parlais des républicains, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, Elon Musk fait partie des people républicain.
Oui, il l'a dit lui-même. Hein, il a pour la première fois financé le Parti républicain il y a 2 ans ou l'année dernière. Donc, il a évidemment choisi son camp. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce qu'il va adouber Trump ? Est-ce que on va avoir ce genre d'alliance ? Je pense qu'il va falloir s'y intéresser. Et aujourd'hui, Twitter, on le comparait à un média là tout à l'heure. Et quand Jeff Bezos rachète le Washington Post, il y a quand même des garde-fous qui sont mis en place.
Jeff Bezos, donc, il dirige Amazon.
Le patron d'Amazon, quand Elon Musk rachète Twitter, d'un claquement de doigts, il peut décider de virer toute la modération, de virer le service de presse. Il y a quand même, même s'il est entouré, comme on dit, cette capacité d'un claquement de doigts de changer les choses. Et aujourd'hui, tous les gens qui s'inscrivent sur X se voient proposer le compte d'Elon Musk pour s'abonner. Donc lui, là j'ai regardé aujourd'hui, c'est 150 millions. Quand on crée un compte sur X, quand on crée des comptes, généralement on dit vous aimeriez bien vous abonner à ça. Évidemment que le compte d'Elon Musk est mis en avant, vu qu'en plus c'est un des plus populaires. Donc évidemment, il a 150 millions d'abonnés. Fut un temps, c'était d'autres gens. Et aujourd'hui, il y a des pubs pour Tesla et pour Neuralink sur Twitter en permanence. Du coup, aujourd'hui, maintenant, il a quand même 150 millions de personnes qui l'écoutent, qui le lisent, et même encore plus, parce que toutes les personnes qui le suivent pas, malheureusement, subissent aussi un peu son...
Il est en tendance tous les jours.
Il est en tendance et les médias reprennent aussi ce qu'il dit.
Anthony Galuzzo, vous vouliez réagir par rapport au côté politique aussi d'Elon Musk.
Oui, alors pour une remise en contexte historique à ce propos, en fait, depuis l'émergence des célébrités entrepreneuriales, en fait, on peut les définir de la façon suivante, depuis la fin du 19e siècle, ce sont des grands capitalistes qui font du storytelling pour légitimer leur position politique, pour légitimer leur pouvoir politique. Et alors, c'est le cas pour Elon Musk, ça a été expliqué par certains des intervenants qui m'ont précédé, mais les premières célébrités entrepreneuriales que sont par exemple John D. Rockefeller ou Andrew Carnegie, pourquoi ils se sont mis à investir massivement dans le storytelling, faire des interviews, écrire des ouvrages, donner à lire en fait sur eux dans la presse, parce que leurs intérêts étaient menacés à un moment où il y avait une montée du socialisme, fin 19e siècle, début 20e siècle, notamment aux États-Unis, qui menaçait de briser leurs entreprises, de briser leurs trusts, de casser en fait leur capacité à accumuler énormément de richesses et donc du pouvoir politique, du pouvoir sur les ressources, sur l'organisation industrielle, etc. Et c'est ça qui se rejoue à chaque fois, en fait, à chaque génération et encore aujourd'hui. En fait, il y a eu un moment dans l'histoire des États-Unis, l'Occident de manière générale, où on a eu peu de célébrités entrepreneuriales. C'était entre les années 1920-1930 et les années 1970. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une phase très keynésienne, fordo-keynésienne, c'est-à-dire un moment où, en fait, on a bien plus taxé les ultra-riches, bien plus contrôler le capital avec un État qui était beaucoup plus planificateur et interventionniste. Et là, en fait, on a eu un reflux en fait, de ces célébrités entrepreneuriales qui sont revenues vraiment en force à partir du tournant néolibéral dans les années 80 avec la génération Steve Jobs, Bill Gates. Et donc, on est dans une phase qui perdure encore jusqu'à nos jours.
Olivier Lascar, un mot, est-ce qu'Elon Musk, il est transhumaniste ? C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que la machine peut améliorer aussi l'être humain.
Alors, oui, mais il y a plusieurs degrés au transhumanisme. Par exemple, il n'est pas du tout dans le trip de la vie éternelle, comme peut l'être Bezos. Bezos a cofondé une entreprise qui s'appelle Altos Lab, dans laquelle il paye grassement des prix Nobel, spécialistes de l'ADN, etc., pour pousser dans leur dernier retranchement les capacités de l'organisme humain.
D'accord.
Musk n'est pas là-dedans, mais par contre, c'est un transhumanisme. Quand on a le projet avec Neuralink d'implanter dans les cerveaux des puces électroniques pour commander aux machines, on est transhumaniste. Ce projet, aujourd'hui, il est déjà utilisé. Ça fait même des décennies qu'on implante des dispositifs dans les cerveaux. Mais c'est pour des personnes qui ont la maladie de Parkinson ou qui ont besoin de faire fonctionner des fauteuils roulants ou des claviers parce qu'ils n'ont plus l'usage de leurs mains. Le projet de Musk, c'est d'appareiller demain, après-demain, des personnes bien portantes pour qu'elles puissent, dit-il, voir en ultraviolet ou télécharger leur mémoire, etc. Ça paraît loufoque, mais ça pose un problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir la tête de quelqu'un qui va bien pour lui poser une puce et
sans son consentement, surtout.
Alors, avec ou sans son consentement, c'est éthiquement impossible.
Bien sûr.
Mais si demain, parce que c'est devenu une personnalité politique, qui pèse dans le débat politique. Si il a des gouverneurs aux États-Unis qui trouvent que c'est formidable comme projet et qui lui font des lois qui lui vont bien, il pourra développer ces sociétés-là dans ce sens-là.
La médecine américaine a déjà donné un accord pour expérimenter,
oui,
les puces aussi dans le cerveau.
Alors, c'est étonnant à certains égards parce que les implémentations de Neuralink ont posé beaucoup de problèmes. Il s'est avéré que les animaux, les singes sur lesquels ça avait été fait, ont été très très maltraités. Certains sont morts dans des conditions épouvantables. Donc là, le dispositif américain, l'association américaine, pas l'association, la fédération américaine qui s'occupe des questions de tests sur les animaux a porté plainte. En revanche, la FDA, qui est une autre organisation, elle a trouvé que le Neuralink était suffisamment au point puisque pour qu'on puisse passer dans quelques mois à des tests sur des personnes humaines. Mais ce sont des personnes qui souffrent de maladies neurologiques. Mmh. Donc on est dans un cadre qui est finalement assez classique. On parle beaucoup. Musk est quand même un accélérateur, quelque part, de savoir. Parce que des sujets comme celui de Neuralink, de l'implantation neuronale, etc., ça fait des décennies que ça existe, on en parle très très peu. Il y a quand même eu, il y a deux mois, un paraplégique qui est parvenu à remarcher de façon très limitée, etc., parce qu'il était équipé d'une puce et d'un exosquelette.
Ouais.
Il y a quand même des perspectives qui sont absolument extraordinaires. Ouais. C'est là où Musk, qu'on voit tout en noir ou tout en blanc, en fait, c'est plusieurs niveaux de gris. Quoi,
c'est ça, et on va continuer à l'explorer dans un instant, après avoir écouté un titre qui correspondrait bien finalement à Elon Musk, c'est Blur avec The Narcissist. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played. Speed.
sur France Inter.
Le débat de midi, nous parlons d'Elon Musk, bon ou mauvais génie. Alors, beaucoup de gens ont leur idée sur la question, mais on essaie d'aller un peu plus loin ce midi avec notamment Anthony Galluzzo, auteur du mythe de l'entrepreneur, Julien Pillot, enseignant, chercheur à l'INSEC, Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique, sciences et avenir, auteur d'une investigation scientifique, on va dire ça, sur Musk Paris en 2022, et également Marie Turcan, rédactrice en chef de Numérama. Alors, Julien Pillot, on parlait de Elon Musk politique, du côté assez, on va dire, sombre d'Elon Musk aussi, par rapport à tous ses comptes qu'il a laissé revenir sur le réseau social X maintenant, ex-Twitter. Par contre, on l'a vu récemment en France, hein, il est venu au salon Vivatech, hein, c'était le 16 juin dernier. Je reprends le titre de la dépêche AFP, un Elon Musk décomplexé fait son show à Paris, mais sans annoncer d'usine Tesla en France. C'est ça qui est assez formidable, c'est-à-dire qu'en effet, c'est ce que vous disiez tous tout à l'heure, c'est il y a lui en premier, et puis après, il y a aussi ses entreprises, mais en effet, devant la 3600 fans, dit la dépêche AFP, donc on vient voir en effet son idole.
Il y a un côté fan qui est incontestable en ce qui concerne Elon Musk. On a une communauté de fans qu'on retrouve évidemment dans le monde de la tech, mais qui va bien au-delà du monde de la tech, parce qu'il est une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Et puis on peut comprendre aussi, parce que mine de rien, derrière toutes ces frasques, derrière le côté farfelu et parfois même sombre du personnage, c'est quand même quelqu'un qui donne à rêver. C'est quelqu'un qui donne une perspective là où les discours ambiants aujourd'hui sont très pessimistes, complètement déclinistes. Lui, il donne de la perspective. Il réenchante un petit peu la tech, même si j'emploie un terme que je n'aime pas des masses, en disant, en fait, si on se relève les manches, tout est possible grâce à la technologie pourvu qu'elle soit utilisée à bon escient. Mais effectivement, Elon Musk, de temps en temps, aime faire le show. Alors effectivement, il choisit ses interviews, il choisit ses canaux de diffusion aussi, rien n'est laissé au hasard. Mais de temps en temps, il vient faire son show, c'est un test de popularité pour lui. Et c'est aussi une façon, puisque vous évoquiez la question des usines Tesla, c'est aussi une question de mettre un peu sous pression le monde des décideurs, notamment des décideurs publics, parce que Elon Musk, tout ambivalent qu'il puisse être, à la fois adulé par certains et détesté par d'autres, eh bien, on retrouve cette ambivalence dans le monde des décideurs publics, parce que d'un côté, on aime le détester pour ce qu'il est en train de faire au niveau de Twitter, l'absence de modération, qui risque de ne pas pouvoir se mettre en conformité aussi avec les exigences des règlements européens autour du Digital Services Act notamment, mais de l'autre, eh bien, on accueille à bras ouverts les usines Tesla, voilà, pourvu qu'elles génèrent de l'emploi et de l'investissement sur le territoire
européen.
Pour
l'instant, il n'y en a pas encore.
Et pour l'instant, il n'y en a pas.
Il n'y a pas encore. Un mot aussi, Anthony Galluzzo, je rappelle, vous êtes auteur du mythe de l'entrepreneur. On dit, par exemple, qu'en France, Elon Musk a été accueilli comme un chef d'État. En effet, il a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. C'est récent, ça, ces idées qu'aussi des chefs d'entreprise peuvent être au même niveau qu'un chef d'État?
Alors, au niveau de la célébrité, en fait, les célébrités type chef d'État ou célébrité entrepreneuriale émerge en même temps, en fait, à partir du moment où ça devient possible de reproduire massivement et à bas coût des images et du texte, fin 19e siècle, en fait, on a tout ce théâtre des célébrités qui émerge. Mais dans la continuité de ce qui vient d'être dit par rapport à Tesla, oui, en fait, quand on parle d'Elon Musk, on parle beaucoup, voilà, on spécule beaucoup sur la technologie, sur sa psychologie aussi, c'est du divertissement parce qu'effectivement, c'est un entertainer. Mais il faut bien faire l'analyse de ce dont on parle quand on parle de ses entreprises ou de lui-même. Il y a tout un ensemble de sujets qui sont très intéressants qu'on pourrait évoquer à travers Elon Musk, mais qu'on évoque peu finalement. Par exemple, on parle de Tesla. Quelles sont les conditions de travail dans les usines Tesla aux États-Unis? On a des ouvriers qui travaillent jusqu'à 12 heures par jour, plus de 40 heures par semaine. Il y a tout un ensemble de rapports qui ont montré qu'en fait, ils étaient en taux d'incidence d'accident du travail à 30% au-dessus des normes. Ils sont payés entre 30 et 50% moins que dans le reste de l'industrie automobile.
Ah oui, d'accord.
Ils signent des accords de non-divulgation qui les empêchent de témoigner notamment de tout un ensemble d'abus. Il y a des violations massives du droit du travail. Tout ça a été très, très souvent révélé par le Guardian, par exemple. Et quand Tesla, et notamment Elon Musk, est mis face à ce type de violation, avec notamment une chasse extrêmement intense à l'activité syndicale, licenciements abusifs et illégaux de tous ceux qui sont identifiés comme des contestataires à l'intérieur de l'usine, qu'est-ce qu'on nous répond en fait à la part de Tesla? On nous dit forcément il faut travailler dur parce qu'on est en train de changer le monde. Vous voyez, donc là on voit bien à quoi, en comment la rhétorique du génie visionnaire et de l'entreprise qui est là pour changer le monde sert à perpétuer en fait des modes d'exploitation qui sont très anciens, qui datent du début du XXe siècle, hein, du modèle fordiste en fait.
Mais c'est ça, Marie Turcot, on voit un capitalisme extrême, c'est ça en fait aussi le modèle dont on parle pas souvent à propos d'Elon Musk.
Bah, c'est aussi ce qu'il a fait quand il a racheté Twitter, donc le vrai Twitter, environ la moitié des gens tout de suite, en disant qu'en fait chaque être humain était censé travailler beaucoup plus que ce qu'il travaillait actuellement, que les droits sociaux n'étaient pas profitables pour faire grandir une entreprise, et donc il a renvoyé plus de la moitié des salariés de Twitter pour toujours selon ce même modèle en fait qui s'applique à lui-même, qui est qu'une seule personne peut changer le monde. Et là on retourne dans ce mythe là et donc pour lui, une entreprise où il y a 25 personnes qui travaillent d'arrache-pied suffit pour lui par rapport à une entreprise où il y aurait 1000 personnes qui travaillent pas très bien. Il a une obsession pour les gens qui ne travailleraient pas assez, et il le montre d'ailleurs lui-même en se mettant en scène en train de dormir dans son entreprise. Il a souvent raconté que pendant des années il a dormi à Tesla dans les bureaux pour pouvoir faire fleurir son entreprise, alors qu'après ça a été montré que bon, il faisait peut-être des siestes de temps en temps. Il valorise beaucoup la présence, le présentiel. Il avait envoyé des mails à toutes les équipes de Twitter pour dire que les gens qui reviendraient pas au travail seraient licenciés dans la foulée. Donc on est c'est ce que vous disiez sur le principe d'Elon Musk qui ferait rêver les gens en montrant que c'est possible d'atteindre ce degré de célébrité et ce degré de succès. En fait, on peut aussi le voir d'un pendant un peu plus négatif, qui est que il nourrit un espèce de fantasme qui fait rêver les classes populaires, qui fait rêver les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de succès, à leur faire croire que c'est possible. Regarde, je suis quelqu'un comme toi, je suis naturel. On revient sur Donald Trump et ce discours et cette idéologie-là.
On voit en effet un parallèle assez étonnant entre les deux hommes.
Seule l'idéologie capitaliste dans laquelle on vit aujourd'hui a pu faire émerger ce genre de personnages. Et c'est là où on peut se demander aussi quand est-ce qu'on arrête ça et comment est-ce que c'est encore possible de mettre des barrières.
Aux États-Unis, c'est vrai que c'est un petit peu aussi là-dessus qu'on se forme. Olivier Lascar, on le voit socialement parlant. En effet, le modèle proposé par Elon Musk est assez terrifiant.
Ah, c'est une catastrophe. Twitter l'a montré à la lumière du jour, hein, avec ses licenciements massifs, mais c'est vrai dans toutes ses boîtes, où ils pressent les gens comme des citrons. Il y a les gens en sortent presque aussi rapidement qu'ils y sont rentrés. Mais quand même, ils y restent quelques années, et pendant les années où ils y sont, effectivement, ils donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Hein. Et le récit autour des entreprises de Musk est tellement efficace, et il séduit tellement une certaine catégorie d'ingénieurs, de techniciens, etc., que à chaque départ, il y a de nouvelles arrivées. Mais bon, ça m'a été dit pour mon bouquin par des gens qui ont travaillé avec lui ou qui l'ont côtoyé. D'un point de vue du management, d'un point de vue des ressources humaines, dans ressources humaines, il y a humain qui comprend pas. Quoi, hein,
c'est ça, oui, que ressources, en effet. Un mot aussi, Marie Turcan. Alors, il y a quelque chose quand on parle d'Elon Musk, on a fait un panorama assez vaste, mais juste une chose pour ce qu'on approche de la fin. Sur Elon Musk, ça peut paraître étrange ce que je vais dire, hein, mais Elon Musk, fumeur de joint. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il le met souvent en avant. En fait, ouais. Il ne se cache pas. Je fume en effet. Souvent, d'ailleurs, on dit souvent que certains tweets qui étaient partis le soir, c'était un peu n'importe quoi. Pourquoi il met ça en avant? Pour montrer, en gros, qu'il n'est pas, un conservateur, en gros, coincé. Il veut se la jouer. En effet, je suis complètement libéré.
Oui, une des images les plus connues de lui, c'est lui en train de fumer un joint pendant un podcast. Alors, je crois que c'est Joe Rogan. J'aimerais vérifier.
Peut-être, oui, il faut.
C'est un influenceur américain d'extrême droite, où il se montre prêt à transgresser. C'est un peu les limites, quoi. Même si, en vrai, fumer un joint aux États-Unis, c'est pas non plus le truc le plus border qu'on ait
beaucoup d'étalons légalisés, en plus.
Voilà, mais en fait, derrière ça, il s'est créé un vrai mythe autour du cannabis, parce qu'il y a ce chiffre 420 qui est aussi associé au cannabis. Alors c'est une espèce de date, le 20 avril, qui correspondrait au jour de la célébration de la marijuana. Et du coup, le 420 est revenu, mais au point où, par exemple, il a racheté les actions de Twitter au prix de 4,20 dollars l'action. Que quand il a voulu, un jour, il avait prétendu qu'il allait mettre Tesla en bourse en 2018, et il avait dit que les actions vaudraient pareil. Il y a ce truc de 420, 442 qui revient tout le temps dans son discours, et ça contribue vraiment pour lui à se créer un personnage et à se créer ce mythe autour de lui, quoi.
42, c'est aussi le chiffre magique du guide du voyageur galactique.
Intergalactique, voilà. C'est ça. Olivier Lascar, Julien Pillaud, je le disais, par rapport à Elon Musk, on le voit aussi, ces choses-là, on le voit avec des blogueurs, on le voit, c'est marrant, aussi bien le cannabis, il aime bien aller vers des choses, par exemple des médias aussi, qui sont beaucoup moins traditionnels. Là, on parlait de blogueurs à l'instant, alors des blogueurs d'extrême droite, mais ces des interviews, en effet, c'est dans des podcasts, c'est soit des blogueurs, c'est pas forcément CNN. Je parlais de Jimmy Fallon tout à l'heure, mais c'est une fois sur 120 autres interviews.
Oui, de temps en temps, il a besoin effectivement d'aller dans des médias bien identifiés et très institutionnalisés.
Voilà.
Mais effectivement, je le disais tout à l'heure, il aime aussi choisir son audience parce que y a des médias qui renvoient une certaine image de lui-même, notamment tout ce qui est de la sphère du podcasting, qui est très très écouté aussi par des gens qui le suivent sur X et qui sont très intéressés, voire même fascinés par le personnage. Mais il y a aussi le côté absence de filtre, absence de régulation sur les podcasts, là où les médias traditionnels sont nettement plus surveillés et sur lesquels peut-être la parole est beaucoup moins libre.
Mmh.
Donc il veille à ça et il ne fait jamais rien par hasard. Mmh. Voilà, ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à conclure aujourd'hui, c'est que Elon Musk ne fait jamais rien par hasard.
Et pour terminer, Olivier Lascar, Elon Musk, j'imagine, on va encore l'entendre parler un petit peu. En dehors, on l'a vu prendre un réseau social, parler de politique, il va y avoir les élections présidentielle en 2024 aux États-Unis, donc je pense qu'il souhaite jouer un rôle, peut-être auprès de Donald Trump, on ne sait pas. Mais là, prochainement, c'est quoi les grands projets aujourd'hui sur lesquels travaille Elon Musk? Il y a un grand événement encore pour lui là, à venir?
Ça reste l'espace, ça reste le Starship. Le Starship, c'est ce super lanceur, cette énorme fusée qui est destinée à aller sur Mars. Il l'a lancée une première fois il y a quelques mois. Elle a explosé à 30 km d'altitude. Il va la relancer, c'était prévu, hein. Il a la technique de l'informaticien, comme disait Julien tout à l'heure, il fait du test and learn, il essaie, ça crache, il recommence, donc c'était prévu, il va repartir, mais le grand moment où Musk peut dévisser, c'est le spatial.
D'accord.
Parce que le spatial, c'est aussi envoyer des humains dans l'espace. Comme Musk, il a ce problème par rapport au... il n'a pas le sens de l'altérité, hein. Il connaît pas l'autre, il sait pas parler humain. Si demain, il y a un accident spatial de SpaceX impliquant des astronautes avec des pertes humaines, s'il n'arrive pas à gérer ce moment-là, ouais, ça peut être la fin d'Elon Musk.
Bon, écoutez, en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup. Olivier Lascar, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique. Votre livre sur Elon Musk, Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Merci à Julien Pillot, Marie Turcan, rédactrice en chef de Numérama, et Anthony Galluzzo, auteur du mythe de l'entrepreneur. J'en profite pour remercier également à la réalisation Étienne Bartin, à la technique Théo de Lobadère, et également une émission préparée par Constance Villanoa, Aloïse Nollet, Mathilde Texier et Savannah Rouelland. Le débat de midi revient demain.